Wanted Radio. Du son. Du cœur. Une passion. Wanted Radio. Première sur la nature en ville. Écolo égale nature, pas si sûr. Solution nature. Avec Valérie sur Wanted Radio.
Bonjour Valérie.
Bonjour Samuel, bonjour les gens. Donc aujourd'hui éphéméride, 31 octobre 2025, c'est la fête d'Halloween. Pour ceux qui aiment, et c'est pas la, c'est le 31, c'est bientôt la Toussaint, pour ceux qui aiment pas la fête d'Halloween. Donc, j'ai vu un documentaire qui n'a rien à voir avec la nature, mais c'est une fête celte en fait. C'est le Samhain que ça s'appelle, et ça date des Celtes. Bon, bien sûr, ça a été un peu récupéré par le merchandising et le commerce, mais voilà, c'est une fête très 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 ancienne et qui est celte. Donc, qui concerne presque la moitié du monde entier. Aujourd'hui, alors, de quoi que l'on va parler aujourd'hui ? Ben justement, on va rester.
Oui, qu'est-ce qu'on va parler ?
Justement, on va essayer de parler de. Ben justement, on va rester dans le commerce et le fun shopping, puisque nous allons parler de l'hyper-réalité de la nature. Alors, qu'est-ce à quoi ce truc ? Alors, c'est d'après l'article de Laurence Graillot sur The Conversation. Je vous invite à lire cet article qui est extrêmement bien fait et qui part du concept de pourquoi les touristes fréquentent-ils des lieux artificiels alors qu'ils sont en demande d'authenticité naturelle. C'est-à-dire que, par exemple, pourquoi ils vont visiter des fausses grottes préhistoriques ? Pourquoi ils vont sur des îles artificielles alors qu'il existe des vraies îles ? Pourquoi ils vont faire des safaris africains dans des eaux européennes ? Tu vois, toutes ces choses-là qui, en fait, transposent des choses réelles du monde qui existent pour de vrai dans la nature de manière authentique, oui. Mais qui sont transposées chez nous de manière artificielle. Voilà. Donc, pourquoi font-ils ça ? Parce que du coup, eh ben, ça enclenche beaucoup de derrière d'effets désastreux, dont un qui est l'appropriation de matières et de ressources d'animaux pour les zoos, et aussi l'artificialisation, la consommation de ressources, etc., etc. Donc cette dame s'est penchée sur, et ça s'appelle l'hyper-réalité. C'est-à-dire qu'on veut que la nature soit plus réelle encore que la nature, qu'elle soit encore plus spectaculaire que dans la réalité, qu'elle soit encore plus flippante, qu'elle soit encore plus confortable, qu'elle soit encore plus... voilà, donc il faut que la nature soit plus encore que... Voilà, on ne peut pas accepter que la nature soit que de la nature. L'exemple parfait, par exemple, par ici, ben, c'est les accrobranches, quoi. Donc, on ne peut pas aller se balader dans la forêt tranquillement et marcher. Il nous faut un divertissement. Il faut mettre en scène la nature. Donc, accrobranches, parcours de je ne sais pas quoi. Enfin, bon, bref. Donc, ça s'appelle l'hyper-réalité. Et ça a fusionné avec, bien sûr, tout ce qui est consommation de loisirs, le fun shopping, pour que nous soyons tous accessibles au divertissement. Et donc dans cet article, il y a beaucoup d'exemples comme, que je ne connaissais pas, comme Tanua Island à la Seine-sur-Mer, qui était un îlot artificiel, c'est-à-dire ils ont recréé une île, mais bien sûr une île à façon commerciale, hein, c'est-à-dire il y a un bar, il y a des trucs, il y a des restos, il y a des machins, et ils allaient l'installer au large de la Seine-sur-Mer pour faire genre une île. Bon, donc bien sûr, chez nous, ici à Solution Nature, on dit bien sûr, chez vous, vous dites ce que vous voulez, bien sûr. Il y a eu beaucoup d'opposition et donc ça ne s'est pas fait. Le projet a été abandonné. Imaginez une île artificielle. Ah, c'est comme les îles à Dubaï, en fait, c'est-à-dire les trucs que les milliardaires se construisent, là, les îles artificielles à Dubaï, et d'ailleurs qui ne trouvent pas preneur. Le mec qui a fait ça, il fait faillite, c'est bizarre. Hein, bon. Comme quoi, bon, là, et alors, ou alors, et donc on appelle ça l'hyper-réalité ou le tourisme de simulation. Voilà, il n'y a pas qu'en amour qu'on simule, ça peut être aussi au niveau de la nature. Donc, ce sont des lieux qui sont détachés des vrais lieux et qui sont, comment dire, augmentés, qui sont aseptisés, qui sont mis en scène afin que notre expérience du lieu soit le plus confortable, le plus sécurisé et surtout le plus frissonnant pour nous. Donc c'est tous les parcs d'attractions, c'est tout ce qui fait référence à Crobranche, si vous voulez. C'est par exemple le nouveau projet là, que nous avons ici en Gironde et qui, nous espérons, ne verra jamais le jour, le surf park à Canéjan, c'est-à-dire réinventer l'océan à une heure de l'océan pour avoir la vague parfaite et consommer des milliers d'hectolitres d'eau, consommer des ressources, artificialiser les sols, polluer aussi au niveau des eaux, des rivières, etc. Mais on aura une réplique de l'océan qui sera asservie à notre confort et à notre envie, c'est-à-dire on pourra créer des vagues comme on a envie de les créer et les surfeurs pourront venir s'entraîner ou essayer de surfer la vague parfaite, techniquement parfaite, qui n'existe pas dans la nature, mais que là, existera. Et donc, voilà, c'est ça l'hyper-réalité, c'est-à-dire recréer une nature qui ne sera pas faite pour nous, et pas une nature qui existe, et une nature qui doit être naturelle, en fait. Donc, c'est un peu la chirurgie esthétique de la nature. Le botox, on met du botox par-ci, on met de l'acide hyaluronique par-là, on fait des liftings, enfin machin, etc. Puis après, voilà, on fait notre petite expérience. Et donc, par exemple, vous avez dans les parcs d'attractions la reproduction de quartiers entiers, comme dans les parcs Disney, les quartiers de Paris, ou comme à Las Vegas, où vous avez un mini Paris, ou machin bidule, ou en Chine, où vous avez aussi un quartier de France, etc. Donc c'est ça, c'est-à-dire que les gens, nous, on va aller se divertir dans des endroits qui sont recréés, mais recréés de la façon dont, un, sécuritaire, c'est-à-dire que, ben voilà, c'est sûr que si vous recréez une île artificielle, on va pas vous mettre tout ce qu'il y a d'embêtant, c'est-à-dire les insectes, les serpents, les mygales, les machins, les bidules, il y en aura pas. Donc vous pourrez faire, c'est pas Koh-Lanta, donc vous pourrez faire votre immersion dans cette île, mais sans risque aucun. Et bien sûr aussi de la consommation, donc consommer des magasins, des restos, des machins, des bidules. Donc c'est ça l'hyper-réalité et ça prend beaucoup d'ampleur parce que les professionnels du tourisme se sont enclenchés là-dedans et ils ont vu que ça marchait super bien et que ça pouvait faire beaucoup de profit. Donc ils multiplient les essais et ils multiplient les créativités et ils multiplient aussi les aberrations. Comme le ski indoor à Dubaï, c'est-à-dire aller faire du ski par 40 degrés alors dehors, voilà, c'est une aberration, même pas écologique, hein, c'est une aberration totale, quoi. C'est une absurdité et mentale, et éthique, et morale. C'est vraiment le côté le plus absurde de l'humain. C'est asservir, encore une fois, c'est-à-dire que le monde, la nature, doit être à notre service à nous. Voilà, c'est-à-dire que il faut qu'elle soit comme nous, on a envie qu'elle soit. Donc, c'est le triomphe du faux. Voilà la question qu'elle pose dans cet article, donc, Laurence Graillot, le triomphe du faux, pourquoi ? Alors, c'est une authenticité mise en scène pour répondre aux attentes d'individus désireux de vivre des expériences différentes de celles de leur vie quotidienne, qui, elles, ne seraient pas authentiques. Donc ça voudrait dire que en fait les gens se font chier chez eux. Ils savent très bien que tout ce qu'ils font c'est vide, creux, et que ce n'est pas du tout authentique avec leur propre nature. Donc ils vont chercher de l'authenticité à l'extérieur et ils se retrouvent dans un cercle vicieux, puisque l'authenticité qu'ils vont chercher à l'extérieur, c'est de l'authenticité fabriquée par justement tout ce qui est les promoteurs du divertissement, qui vont créer des lieux où ils pensent que où les gens pensent qu'ils vont retrouver de l'authenticité, mais alors que c'est de l'authenticité qui est fausse. C'est une illusion. Donc moi quand j'ai lu l'article, c'est la question que je me suis posée. Je me dis, est-ce que nous nous faisons tellement chier chez nous dans nos vies que nous avons besoin d'aller chercher du frisson dans des endroits fabriqués, comme dans les réseaux sociaux d'illusions, etc., où on voit la vie des autres qui est toujours plus belle que la nôtre, etc. Exactement. Et où ça nous fait rêver. Est-ce que ça ne traduit pas plutôt le fait que nous, à l'intérieur, on est creux et vide, quoi ? Et ça, moi, je trouve ça quand même, c'est extrêmement flippant pour ma part. Moi, personnellement, j'ai une vie extrêmement riche. J'ai une vie intérieure extrêmement riche et je n'éprouve pas le besoin justement d'aller dans ces endroits fabriqués. Peut-être parce que en fait j'ai réussi à trouver ce qui est authentique chez moi, pas tous les jours, mais au moins le plus souvent possible. Il faudrait peut-être essayer par là. Donc, est-ce que nous allons continuer à faire que... En fait, on est en train de créer un monde sur notre propre monde réel, c'est-à-dire qu'on est en train de recréer des espaces qui sont faux, qui sont fabriqués, qui sont orientés, où on nous pousse et à nous divertir et à déconnecter et à machin et à nous abrutir et aussi à consommer. Voilà, donc notre temps est devenu aussi une source de consommation. Et ça s'appelle donc l'hyper-réalité, ou alors ce que j'aime bien, moi, c'est ça, c'est le tourisme de simulation. C'est-à-dire qu'on va simuler dans un endroit un espace qui existe vraiment, mais on va bien sûr le simuler à ce qui soit le plus confortable et le plus spectaculaire. Et si, je te dis que, ben non, c'est pas vrai. Dis-moi pas ce que c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. C'est l'hyper-réalité. C'est une simulation de la réalité différente de la réalité matérielle. Alors, donc on va chercher à l'extérieur ce que nous n'arrivons pas à vibrer à l'intérieur. Alors, cette simulation, si vous voulez, non seulement elle en dit beaucoup sur ben, nous, notre recherche et surtout notre monde intérieur, c'est peut-être ça qu'il faudrait nous interpeller, mais elle conduit aussi à ne plus, hélas, à ne plus distinguer, et on est en plein dedans avec l'IA, etc., à ne plus distinguer le vrai du faux. C'est-à-dire que, on en vient à croire ce qui a été faux et ce qui a été fabriqué. Notre cerveau, il fait pas la différence, en fait. Pour lui, l'expérience, si on lui dit, c'est ça, etc. La serre tropicale, on se retrouve sous les tropiques, machin bidule, etc. Donc, on commence à mélanger ce qui est vrai de ce qui est faux. Et donc, du coup, avec toutes les biais et puis tous les dommages corporels et mentaux que cela peut engendrer, c'est parce que, on fait une réalité copiée sur la vraie réalité et du coup notre cerveau n'en fait plus la différence. Alors bien sûr il y a deux types d'hyper-réalité. Il y a celle qui reproduit et copie conforme la réalité, comme par exemple les grottes de Lascaux. Pour préserver les réelles grottes de Lascaux, on a fait des fausses grottes de Lascaux pour que les touristes puissent visiter et sans que ça mette des dommages sur la vraie grotte de Lascaux. Donc ça, vous allez me dire, oui, mais ça porte un bon sentiment puisque c'est pour protéger. Je suis d'accord, mais du coup, ça entraîne de l'artificialisation de sol, ça entraîne de la construction, ça entraîne du fragmentation de territoire puisque c'est au milieu des bois, etc. Donc voilà, encore une fois, c'est pour aménager et pour que on ait droit à un divertissement confortable et qu'on puisse écrire sur les murs, parce que il y en a qui dégradaient aussi, voilà, que on puisse mettre des tags sur les murs. Donc ils ont recréé ça. Et donc celle qui reproduit, donc il y en a deux, celle qui reproduit copie la réalité de la manière copie, comme pour les grottes de Lascaux, ou comme pour dans un des zoos de je sais plus à Rennes, ils ont fait, vous pouvez avoir l'expérience de faire un safari africain. Voilà, je sais pas comment dire quoi. Quel intérêt à Melun d'avoir envie de faire un safari africain, sans déconner. Il faut être quand même hyper imaginatif pour pas se rendre compte qu'on n'est pas en Afrique, déjà. Voilà. C'est pourquoi.
Et puis ça se trouve, il y aura une certaine, comme on dit maintenant, une certaine hype.
Oui.
Au début.
Oui.
Qui va retomber et au bout de trois ans, ça ne marchera plus.
Et
on laissera le paysage pourrir avec les machines.
Mais écoute, alors là, tu me lances une perche formidable, puisque c'est ce qui arrive au fameux surf park et parc d'attractions aquatiques,
oui,
en Espagne, où ils en ont fait, ça a été une mode, ils en ont fait des centaines et des centaines, et ils se sont aperçus au bout d'un moment qu'ils n'avaient pas assez d'eau pour faire marcher ça. Et donc aujourd'hui, ils en ont plein qui sont abandonnés. Donc c'est de l'artificialisation de sol qui a servi à que dalle. C'est des infrastructures qui sont en train de pourrir sur place, et ça a été des hectolitres d'eau qui ont été dépensés pour que dalle pendant le peu de temps que ça a marché. Et voilà, donc c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on se comporte comme des gosses capricieux. Je veux ma sucette, et c'est terrible parce que notre sucette, c'est notre eau, c'est notre oxygène, c'est nos forêts, et on s'amuse à jouer avec ça. Mais quand le frigo va être vraiment vide à la fin enfin, voilà, quoi. Je veux dire, il faut faire gaffe avec quoi on joue. Il faut arrêter de jouer avec ça. Enfin, il faut arrêter de nous comporter comme des gosses. Donc, j'en étais aux deux types d'hyper-réalité. Donc, celle que vous avez qui est copie conforme de la réalité, la grotte de Lascaux, par exemple, ou le safari africain, ou je ne sais quoi, ou l'île artificielle, ou la serre tropicale, enfin, vous en avez plein. Ou celle qui est carrément inventée, originale. Et que, bien sûr, toutes ces hyper-réalités, donc ces réalités fabriquées, elles ont pour deux bases, il faut qu'elles soient accessibles le plus possible au public, donc avec des prix compétitifs. Et il faut que ça se fasse aussi en toute sécurité, bien sûr, hein, ce qui est normal, hein, voilà. Et tout ça, ça amène en fait de la mise en forme d'infrastructures, de structures. Et souvent, comme tu le disais très bien, Samuel, ce sont des modes. Ce sont des modes qui vont passer. Et on bousille un territoire, on bousille des ressources pour notre divertissement à nous, qui est bien sûr plébiscité par l'équipe de marketing haut level de là-haut, là. Toute l'équipe de merchandising et marketing, eux, bien sûr, mais ils sont très contents de tout ça.
C'est beaucoup, 7 milliards d'euros, Wilfried, je me rends pas compte.
C'est une somme plutôt rondelette, en effet, Madame Elnett. À ce propos, vous vous souvenez du bateau que vous vouliez m'offrir ?
Oui, votre petit kayak.
Alors j'ai changé, c'est plus tout à fait un kayak, c'est un bon gros voilier de 40 mètres, 1 200 000 euros. Vous voyez, c'est ça qui vaut le coup, quoi.
Et vous voulez que je participe à la hauteur de combien ?
Eh ben, 1 200 000 euros.
D'accord. Et dites donc, vous voulez pas rester boire une petite suze avec moi, Wilfried, pour fêter les résultats du groupe ?
C'est très gentil, Madame Elnett, mais nous sommes vendredi soir et j'ai de la route. J'ai une raclette à Melun chez ma belle-sœur.
C'est quoi une raclette à Melun ?
Non, Melun, la ville. Ah. Et la raclette, c'est du fromage. savez, qu'on mange fondu sur des pommes de terre ou de la charcuterie, avec une petite machine qu'on met au milieu de la table.
Ah. C'est marrant, raclette, c'est le même nom que le petit grattoir qui sert à retirer le givre sur les voitures.
C'est vrai, c'est vrai.
Vous, les pauvres, vous êtes tellement créatifs.
Je remercie M. Jérôme Commander pour ses sketchs que vous pouvez retrouver sur Canal+. Donc là, c'est Madame Elnette, si vous l'avez reconnue. Et d'ailleurs, il y a un film sur Madame Elnette là, qui sort ou qui est déjà sorti, justement sur l'histoire de Madame Elnette L'Oréal. Voilà. C'est un autre monde, hein. C'est une hyper-réalité qui n'est pas accessible, qui est inaccessible pour nous, mais moi, je n'en vis pas du tout, hein. Vraiment. Ça me... Donc, pour en revenir à cette hyper-réalité, donc, il faut qu'elle soit accessible en toute sécurité, quitte à bousiller des territoires et à les fragmenter, les artificialiser. Vous avez, par exemple, en Allemagne, une île tropicale, ça s'appelle Tropical Iceland, qui a été créée dans une ville d'Allemagne. Bien sûr, elle reflète la réalité d'une île tropicale, mais sans la chaleur et l'humidité à 85% d'une île tropicale, hein, qui est quand même pas très confortable pour les corps, et sans les insectes, bien sûr. Donc, c'est fait en toute, on va dire, aseptisation, c'est-à-dire qu'il faut quand même que ça reste dans les confortables pour nous. Donc, vous avez toutes les... Et en plus, ces hyper-réalités, il y a un phénomène là, qui arrive beaucoup, qui ressemble beaucoup surf park, c'est aussi d'avoir une hyper-réalité de plus en plus spectaculaire, comme dans les manèges à sensations, en fait. Voilà, donc, car le spectaculaire, comme dit Laurence Graillot dans son article, le spectaculaire procure du plaisir, et le plaisir, ça fait gagner de l'argent aux gens. C'est-à-dire que nous sommes des animaux de pulsion, de caprice, et nous devons consommer. Voilà, toute l'équipe là de merchandising au level height, ils savent très bien qu'on marche à la dopamine, donc à la ressource, à la recherche du plaisir. C'est pour ça qu'on a du sucre partout, c'est pour ça que... Le sucre est la plus grande drogue qui existe au monde, dont on ne peut pas se passer et qu'on n'arrive pas à... Voilà, c'est parce qu'on a cette envie toujours... Alors on fait des hyper-réalités, des espaces de divertissement qui ressemblent au réel mais qui ne sont pas réels, de plus en plus spectaculaires.
Et si je peux me permettre, Valérie, il y a quelques semaines, j'ai regardé un documentaire sur le monde du spectacle.
Oui.
Il parlait justement des concerts
qui
étaient de plus en plus extraordinaires, avec des spectacles, avec
des feux d'artifice, des hélicoptères,
des gens qui... comment on appelle ça ?
Des acrobates.
Des acrobates. Et la source du concert, la musique, n'est plus
mise
en avant.
D'accord, ok, c'est le spectacle en lui-même.
Oui.
Ça veut dire que le chanteur, il peut chanter naze.
Le spectacle gommera.
Terrible.
Le mauvais chant du chanteur.
D'accord, donc ça avale l'authenticité du.
Disons que les gens vont se rappeler du feu d'artifice.
Oui.
Pas
et
forcément
oui.
La chanson qu'il y a derrière.
Ah ouais, on est en plein dedans. Ça, ce sont des structures d'hyper-réalité, du tourisme de simulation, du concert de simulation, où on recrée du frisson pour appâter et attirer et garder les gens. Mais ce n'est pas de la réalité. Alors... Moi, au niveau du spectaculaire, c'est vrai que j'ai une vision différente du spectaculaire. Pour moi, ce qui est spectaculaire, par exemple, c'est déjà d'être en vie tous les jours. Quand je me lève, je me dis, voilà. que le corps humain, c'est quand même une machine spectaculaire avec tous les mécanismes qu'on enclenche tous les jours de manière consciente ou inconsciente. La respiration, la digestion, parler, bouger, chanter, ça, c'est spectaculaire parce que c'est une... Il n'y a pas besoin de technologie, il n'y a pas besoin de trucs. Vous savez quand même que pour un rein qui fait la grosseur de votre main... les gens, hélas, qui ont des problèmes de reins et qui doivent faire des dialyses, ils doivent se coller des machines qui sont aussi grosses que des armoires, quoi. Peut-être pas, mais presque. Donc, alors, pour remplacer un petit truc qui est aussi gros que votre poing. Donc, vous êtes déjà spectaculaire. Pourquoi aller chercher du spectaculaire à l'extérieur ? Essayez de vous regarder vous-même déjà dans la glace et vous verrez que du spectaculaire. Une herbe qui pousse, c'est spectaculaire. Un coucher de soleil, c'est spectaculaire. Un arbre, c'est spectaculaire. Mais bien sûr, c'est spectaculaire. Et des fourmis, vous avez jamais vu les fourmis là qui font leur boulot là, qui portent des brindilles plus grosses qu'elles et tout ça, c'est spectaculaire. Donc tout autour, vous avez des spectacles spectaculaires, et mais qui sont réels, voilà, qui sont authentiques. À l'opposé, mais des parcs d'attractions qui vous montrent des choses qui ne sont pas authentiques, mais qui remettent. Mais pourtant, qui utilise la réalité pour voilà pour surfer dessus. Voilà. Donc, écoutez, que vous dire ? Respectez-vous, c'est le mieux. Essayez de réenchanter votre intérieur avant d'aller essayer de voir à l'extérieur si ça va mieux. Et puis, essayer d'éviter trop l'hyper-réalité pour rester dans la réalité. Et si vous voulez un moyen de faire face aux changements climatiques, aux catastrophes, c'est... Moi, j'en ai trouvé un, justement, en préparant cette émission, qui est tout simple, qui est gratuit, qui ne coûte pas d'argent, qui ne coûte pas beaucoup de temps... Qui est...
J'aime quand tu me parles comme
ça. Ah ouais, non, mais qui est très facile à faire pour tout le monde, c'est respecter la nature. Alors, respecter la nature, ça peut être sous toutes ses formes, c'est-à-dire que respecter les herbes, mauvaises herbes que vous avez sur les trottoirs, arrêter de les pesticider, respecter les insectes qui sont dans vos jardins, respecter les araignées qui rentrent dans vos maisons, au lieu de les tuer à tire-larigot, et bien vous les prenez tout doucement, et vous arrivez, si vous n'êtes pas arachnophobe, bien sûr, à les attraper et puis à les remettre dans les jardins. Respecter les arbres, arrêter de faire pipi ou de jeter des détritus sur leurs racines, de couper leurs branches parce qu'il y a les feuilles qui tombent ou parce que c'est trop près de la piscine. Voilà, c'est aussi simple que ça. Essayez de respecter la nature dans tout ce qu'elle est, parce que vous êtes aussi de la nature. Et si vous arrivez à respecter tous les jours un peu la nature, c'est-à-dire au lieu d'écraser l'escargot, eh bien, vous passez à côté. Au lieu de chasser les fourmis à coups d'insecticides au printemps, eh bien, vous déplacez la fourmilière. Au lieu de chasser les oiseaux, au lieu de laisser votre chat courir après les oiseaux, eh bien, vous l'empêchez d'aller manger des oiseaux qui sont dans les arbres. Voilà, toutes ces choses, ça, vous ramassez les crottes de vos chiens pour pas qu'ils polluent les parcs. Vous évitez qu'ils courent partout dans les parcs parce que vous avez des oiseaux qui, par exemple, vont au sol pour trouver leur nourriture. Et à cause, bien sûr, des chiens qui courent partout, ils peuvent plus aller au sol pour trouver leur nourriture. Donc, c'est tous ces petits gestes de respect. Soyez conscients qu'autour de vous, il y a de la vie. Il n'y a pas que vous, il y a de la vie partout, même de la vie qui ressemble peut-être pas à nous, c'est-à-dire les arbres, les insectes, etc., mais c'est de la vie. Donc si, commencez par ça. Ce sont des gestes simples et gratuits. Respecter la nature, c'est vous respecter vous-même. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur Solution Nature. Et de nouvelles frasques de notre chère planète et de notre chère race humaine. Parce que à venir, des hyper-réalités et des ça me fait rire déjà. Des coups à la con, il y en a un paquet qui arrive. À bientôt, mes chers amis, et soyez respectueux. Ciao, Samuel.
Salut.
Wanted Radio, première sur la nature en ville. Wanted Radio, du son, du cœur, une passion.